vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. En moins de 30 ans, Bpost a changé de nom, d'identité et surtout de business model. On revient sur l'histoire de l'entreprise postale dans un instant. Mais d'abord, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la réforme du décret paysage devrait être abordée ce mardi en commission. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Les partenaires de la majorité wallonne se déchirent depuis 3 semaines sur le décret paysage, le décret qui règle les études supérieures et organise l'avancement des étudiants dans leur parcours. Les députés francophones se retrouvent ce mardi en commission avec 2 propositions de décret sur la table. En coulisses, ça négocie ferme. Que contient ce décret et sa réforme? Qu'est-ce qui fâche au sein de la majorité? Nos spécialistes enseignement, Éric Burgraff et Charlotte Hutin, réexpliquent tout avec Camille Terlinden.
Bonjour Éric.
Bonjour Camille.
Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Pouvez-vous me rappeler ce qu'est ce décret paysage? Depuis quand existe-t-il et pourquoi a-t-il été réformé en 2022?
En fait, le décret date d'il y a 10 années. Il matérialise en fait une refonte de l'organisation de l'enseignement supérieur. Il était porté à l'époque par le ministre Jean-Claude Marcoux, le ministre socialiste. Il était voté en 2013, mais il a pris cours en septembre 2014. Pour faire très simple, on peut dire qu'il permet aux étudiants d'accumuler des crédits. Une année vaut en principe 60 crédits. Un cours vaut 3, 4, 5, 6, 7 crédits en fonction de son importance. Les étudiants accumulent des crédits au fil des années et dans des balises assez larges. Ça veut dire que s'ils ont raté un cours la première année, ils peuvent poursuivre leur formation et représenter cet examen un peu plus tard. Le souci avec cette histoire, c'est que les étudiants sont parfois un peu procrastinateurs et vu les balises assez larges, ils laissent parfois des cours de côté, des casseroles, comme on dit, qu'ils traînent pendant plusieurs années. Et ils se retrouvent parfois à la fin d'un parcours, à quelques mois de leur diplôme, avec des cours de première ou de deuxième année, alors qu'ils sont en cinquième, qu'ils ne sont toujours pas réussis. Et ils risquent en fait ce qu'on appelle la non-finançabilité, ça veut dire qu'ils sont tellement traînés que c'est la Fédération de l'Université qui dit on ne peut plus vous financer. Donc vous êtes quelque part mis à la porte de l'enseignement supérieur, sauf si l'institution, l'université ou la haute école décide autrement, disant c'était étudiant est encore dans un parcours de réussite, on va lui permettre de poursuivre sous notre responsabilité financière en fait. Cela étant, il y a eu pas mal de récriminations par rapport à ce décret qui était très large, parce que justement il y a eu beaucoup d'étudiants qui traînaient des casseroles sur une longue période avec une notion assez floue de la notion de réussite. Et on a eu en 2022 un nouveau décret qui est entré en vigueur, il avait été porté par la ministre libérale cette fois-ci, Valérie Glatini. Dans cette nouvelle version, globalement on reste sur le même principe, sauf que les balises dans lesquelles on doit évoluer sont beaucoup plus resserrées, ce sont des balises de temps. Par exemple, on n'a plus désormais que 2 ans pour réussir sa première année, voire 3 ans si on se réoriente. On a 5 ans maximum pour arriver à la fin de son bac et 4 ans maximum pour arriver à la fin de master. Ça fait quand même, disons-le, 5 plus 4, 9 années pour réussir un parcours qui en fait en principe 5. Ça peut paraître court, mais c'est très généreux par rapport à d'autres systèmes européens. On peut préciser, évidemment, dans ces situations, des étudiants qui sont des procrastinateurs, mais il y a aussi des étudiants qui, en fonction de leur situation sociale, leur situation familiales sont obligées aujourd'hui de jobber pour payer leurs études et se trouvent dans une situation beaucoup moins favorable à la réussite que certains de leurs collègues, et ça aussi ça entre en compte évidemment.
Oui, donc le décret paysage, ça a aussi d'une certaine manière permis à des étudiants qui n'avaient peut-être pas accès à l'enseignement supérieur avant ou qui se disaient que les règles de réussite étaient trop sévères de pouvoir jobber en même temps et ainsi avoir accès à l'enseignement supérieur. Un autre problème par contre du décret paysage, c'est que alors certains étudiants arrivaient à anticiper le fait que bientôt ils ne seraient plus finançables, mais pour certains ça tombait un peu de nulle part et ils n'avaient pas réussi à l'anticiper ou se disant que les règles étaient tellement flexibles, ils pensaient pouvoir quand même arriver au bout de leurs études, ce qui n'était pas le cas. Et donc ça tombait un peu du jour au lendemain pour certains, avec très peu de possibilités de réorientation ou à la limite aller vers la promotion sociale pour retrouver sa finançabilité et ensuite retourner vers les études supérieures. Mais il y avait quand même beaucoup d'étudiants qui se retrouvaient bloqués avec très peu de possibilités du jour au lendemain.
À l'époque, les partis de la majorité avaient tous approuvé cette réforme. Pourquoi le PS et Écolo reviennent-ils aujourd'hui sur leur décision ?
En fait, la nouvelle version du décret qui date de 2022 s'applique aux nouveaux étudiants qui sont inscrits à cette date de septembre 2022 à ceux de septembre 2023. Et puis, en septembre 2024, dans quelques mois, le décret dans son entièreté va s'appliquer aussi aux étudiants qui étaient inscrits précédemment, en fait, dans les anciennes cohortes. Et on s'est rendu compte, notamment à la FEF, qu'il y a une période de transition, mais il y a des étudiants qui sont à cheval quelque part entre les deux versions du décret. Mais on s'est rendu compte qu'il y allait avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de victimes collatérales de ce décret qui n'entrent plus tout à fait dans les règles de finançabilité. l'université, notamment parce qu'il faut des programmes de 45 crédits et d'autres choses qui sont très compliquées à expliquer ici en quelques secondes. Mais globalement, il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers d'étudiants qui se trouvent dans ces situations compliquées, qu'on n'avait pas anticipé, que le PS et Écolo et le MR n'avaient pas anticipé. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que PS et Écolo veulent apporter une solution à ces étudiants qui sont dans une situation compliquée.
Il faut quand même noter que si les trois partis ont voté, il y a eu quand même tout au long des derniers mois des interpellations assez régulières de deux députés, un député PS et un député écolo, qui demandaient assez régulièrement des chiffres en matière de finançabilité pour un peu essayer d'estimer combien d'étudiants seraient impactés, ce qui est très difficile. Et il faut aussi noter qu'on est à deux mois des élections. On sent quand même qu'on est dans un contexte électoral où chacun essaye un peu de défendre sa vision de l'enseignement supérieur. Et finalement, avec le décret paysage, c'est un peu deux visions de l'enseignement qui s'affrontent. D'un côté, une vision plus de droite du côté du MR, ou qui serait de dire qu'il ne faut pas brader la valeur d'un diplôme et que l'acquisition d'un diplôme, ça doit avoir une valeur quand même émancipatrice et en ce sens garder une certaine valeur et pas brader en fait le niveau du diplôme. Et de l'autre, une vision plus à gauche qui serait de dire qu'il faut permettre au plus grand nombre possible d'avoir accès à l'enseignement supérieur, d'être diplômé. Et la solution, c'est alors de fournir des moyens supplémentaires, des moyens budgétaires, des aides à la réussite, quitte à ce que les étudiants mettent 10 ans, voire plus pour terminer leur parcours.
La FEF avance que plus de 70 000 étudiants risquent d'être exclus du financement public. Le Soir a lui annoncé que quelques centaines d'étudiants pourraient potentiellement être exclus de l'enseignement supérieur. Ces chiffres sont-ils véridiques ?
Alors, en réalité, aujourd'hui, on ne sait pas combien d'étudiants supplémentaires ne seront plus finançables et n'auront plus accès à l'enseignement supérieur avec les nouvelles mesures de la réforme, tout simplement parce qu'il reste encore deux sessions d'examen. Pour revenir sur les chiffres de la FEF, qui seraient de 70 000 étudiants qui risquent d'être exclus du financement public, en fait, la FEF, parfois, se contredit quand elle parle de 70 000 étudiants. Par moment, elle dit « dès l'année prochaine, ce sera 70 000 étudiants ». On ne sait pas si c'est 70 000 étudiants en plus, si c'est 70 000 au total. Et dans d'autres annonces, la FEF a plutôt tendance à dire 70 000 étudiants supplémentaires dans les années à venir. Donc c'est très difficile de savoir exactement ce qu'elle sous-entend par là. Par ailleurs, pour avancer ce chiffre de 70 000 étudiants, il s'agit quand même d'un étudiant sur trois dans l'enseignement supérieur. Elle se base sur un sondage qui a été réalisé en 2021 où on demandait la FEF demandait aux étudiants s'ils avaient des chances de réussir leur parcours avec les nouvelles règles qui allaient intervenir l'année suivante. Sauf qu'en fait, il est impossible de retrouver ce sondage en ligne. La FEF ne nous l'a pas communiqué et on ne sait pas non plus combien d'étudiants ont répondu au sondage. Par ailleurs, la projection, elle part du principe que les étudiants n'auraient pas modifié leur trajectoire de réussite suite au nouveau décret. Or, on voit que le taux de réussite, il a augmenté de 5% lors de la dernière session d'examen. Donc voilà, les chiffres avancés par la FEF sont pas très clairs, mais en tout cas, tous les intervenants qu'on a pu avoir, que ce soit les universités, les hautes écoles, nous disent que ce chiffre est largement exagéré. Il faut savoir que chaque année, même avant le décret, il y avait entre 10 et 15% des étudiants qui n'étaient plus finançables. On s'attend à une augmentation du nombre d'étudiants non finançables, mais il est très difficile d'estimer. C'est très fortement improbable que ce chiffre soit de 70 000.
En fait, aucune institution un peu sérieuse, un peu digne de ce nom, ne valide ce chiffre de 70 000 étudiants. Ni les universités, ni les hautes écoles, ni l'ARES, ni même le monde politique, lorsqu'il veut bien prendre la peine de la garder en face.
Pour soutenir la FEF, le PTB a déposé un texte pour demander l'annulation de la réforme. Est-ce une solution réaliste? Si ces nouvelles règles ont été votées il y a 2 ans, c'est parce que les étudiants accumulaient trop de casseroles.
Alors en fait, le PTB a repris une proposition telle quelle de la Fédération des étudiants francophones qui souhaite en fait retirer la réforme Glatini et revenir au décret Marcourt. Alors cette proposition de retrait, elle a peu, voire aucune chance de passer en commission et au Parlement, car elle n'est soutenue par aucun autre parti politique, ni à droite ni à gauche, ni par le terrain qui ne souhaite pas revenir à la réforme précédente qui entraînait, comme on l'a expliqué au début, des reports d'examens, des études à rallonge, et qui avait même un impact, on l'a vu dans certaines études, plus négatif sur les étudiants précaires.
Ne pas oublier que les examens commencent fin mai, début juin, c'est-à-dire dans un mois et demi, et on ne peut pas, du jour au lendemain, à quelques semaines des examens, remettre en cause un fonctionnement, un parcours étudiant qui existe pour la plupart des étudiants concernés ici depuis 2 ans. Voire un peu plus, le faire, ce serait créer un chaos total et ce serait tout à fait contre-productif.
Les engagés se sont publiquement opposés aux propositions du PS Écolo et du PTB. Ils sont davantage en faveur de l'alternative avancée par les recteurs et les rectrices. C'est quoi cette alternative ?
Donc en fait, les recteurs et les rectrices, dans une note commune, ont déclaré qu'ils étaient contre en fait le fait d'un moratoire d'un an sur les règles de finançabilité comme proposé par PS et Écolo, qui est en fait un moratoire d'un an pour l'ensemble des étudiants, même ceux qui sont rentrés dans leur parcours supérieur après la mise en place de la réforme. Et en fait, les recteurs et les rectrices, ce qu'ils suggèrent, c'est de prolonger la période de transition pour certains étudiants uniquement, pour certaines cohortes d'étudiants, notamment celles et ceux qui ont été fragilisés par la crise sanitaire et celles et ceux qui se retrouvent effectivement dans cette période de transition. Ce qui est difficile, c'est de définir avec précision quels étudiants on immuniserait entre guillemets pendant une année, parce qu'en fait avec le décret Marcourt, justement, il n'y a plus de cohorte à proprement parler. Les étudiants évoluent dans leur parcours sans vraiment appartenir à une année d'enseignement. Il y a aussi des enseignants, des professeurs du supérieur qui se sont prononcés par rapport à cette proposition. Pour eux, en effet, ce serait vraiment très difficile de définir des cohortes. Eux seraient plutôt favorables au fait que le jury puisse déclarer un étudiant finançable, même s'il ne l'est plus, et peu importe le nombre d'examens qu'il aurait réussi ou raté. Et donc, eux sont plus favorables au fait que ce soit le jury qui décide qu'un étudiant ou non reste finançable. Depuis deux semaines, chacun y va un peu de sa proposition pour adapter la réforme.
Aujourd'hui, les partis se retrouvent en commission de l'enseignement supérieur pour débattre de cette réforme du décret paysage. Va-t-on enfin trouver une solution après deux semaines de tension ? Tout se joue-t-il aujourd'hui ?
Je dirais que beaucoup se joue aujourd'hui. À ce stade, il y a, rappelons-le, deux textes qui sont déposés, qui doivent être discutés au Parlement. Le premier texte est déposé par le PTB, qui remet largement en cause, pour ne pas dire totalement, le décret paysage dans sa nouvelle version. Le deuxième texte qui est déposé par Écolo et le PS, qui propose un moratoire sur toutes les questions de finançabilité. Moratoire étendu à l'ensemble des étudiants. Rappelons que le PS et Écolo ne veulent pas du texte du PTB, que le PTB ne veut pas du texte des autres, que le maire ne veut d'aucun texte, que les engagés non plus, mais les engagés se disent prêts à soutenir la proposition des recteurs. On sait que depuis la proposition des recteurs, Écolo s'y est dit plutôt favorable. Le PS, on ne sait pas encore très bien où il se situe. Je pense qu'à ce stade, des négociations vont se dérouler en coulisses, probablement jusqu'à la dernière minute, et on ne peut pas dire à l'heure où l'on parle si ce sera la grande foire d'empagne ou pas en commission du Parlement, ou si ce sera la grande surprise.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le texte du PTB a très peu, voire aucune chance de passer, puisqu'il sera voté par, a priori, aucun autre parti. À l'inverse du texte proposé par PS et Écolo, qui a de plus grandes chances, parce qu'il suffirait qu'un des autres partis s'abstienne de voter pour que le texte passe en commission et puis soit présenté au Parlement le lendemain.
Merci Eric.
Merci Camille.
Merci Charlotte.
Merci.
Chaque année, le nombre de lettres envoyées en Belgique diminue. Bipost a donc dû s'adapter pour vivre avec son temps. En moins de 30 ans, l'entreprise a changé de nom, d'identité et surtout de business model. Une transformation calquée sur celle de notre société. Avec Julien Bialas et Léo Rocher, journaliste au Pôle Société, Julien Cambier revient sur les grandes étapes de l'évolution de l'entreprise postale.
Bonjour Julien, bonjour Léo.
Bonjour.
Bonjour Julien.
Qu'en diriez-vous que la transformation de la Poste vers la version actuelle de Bipost a commencé et quels ont été les éléments déclencheurs de cette transformation ?
Je dirais qu'il y a certainement eu un momentum à la fin des années 90, début des années 2000. Il faut replacer ça un peu dans un contexte plus global. À cette époque, l'Europe décide de réformer le marché postal et décide de l'ouvrir à la concurrence, de le libéraliser. Il faut savoir que Bipost, la Poste à l'époque, avait un monopole et elle a dû se préparer à l'arrivée de nouveaux concurrents et ça a impliqué toute une série de décisions. On a vu qu'il y a des managers qui avaient une expérience privée qui sont venus à la tête de la Poste avec leurs outils et ça a complètement changé la manière dont l'entreprise fonctionnait. Et on voit qu'au début, au milieu des années 2000, il y a eu d'abord deux partenaires qui sont montés dans le capital. Donc là, c'était une première arrivée du monde privé. Et puis il y a eu, surtout en 2013, l'introduction en bourse. Et aujourd'hui, il faut quand même rappeler que l'entreprise est toujours détenue majoritairement par l'État, qui reste actionnaire majoritaire. Mais effectivement, il y a une structure à deux têtes entre l'actionnaire majoritaire qui est Bipost et puis toute une série d'acteurs qui sont privés.
Au début des années 2000, le courrier représentait la majorité du chiffre d'affaires de la Poste. Le problème, c'est que chaque année, le nombre de lettres envoyées diminue. L'entreprise a donc dû se diversifier pour compenser cette perte de revenus. Comment a-t-elle procédé ?
Oui, c'est ça. On peut dire que la Poste, à l'image de la société, a énormément changé ces 20 dernières années, notamment sous l'impact de la numérisation et du fait qu'aujourd'hui, on envoie beaucoup plus un SMS, un email, un WhatsApp qu'une lettre. C'est devenu un enjeu vraiment existentiel pour la Poste de se diversifier. diversifié parce que effectivement, vous l'avez bien dit, le nombre de lettres traitées diminue entre 8 à 10% chaque année, encore aujourd'hui. Alors, Bpost a essayé d'investir dans une série de domaines. Il y en a un aujourd'hui qui fait consensus et sur lequel l'entreprise a misé toute sa stratégie, c'est les colis et la logistique. Et on voit que Bpost aujourd'hui se positionne comme un acteur majeur dans ce secteur, aussi bien en Belgique, mais on voit aussi qu'ils ont diversifié et internationalisé leurs activités pour préserver et pour renforcer l'emploi belge. En tout cas, c'est chaque fois les arguments de la direction.
On a parlé des nombreux changements au sein de Bpost. Quel impact ont-ils eu sur les citoyens et sur le métier de facteur ?
Je pense que l'impact le plus visible au niveau des clients et au niveau des facteurs, c'est le manque de social aujourd'hui qu'il y a. C'est-à-dire qu'à l'époque, le facteur, c'était quelqu'un qui passait tous les jours à la maison, qui connaissait bien les personnes chez qui il allait. Aujourd'hui, ça a complètement changé, notamment, comme Julien l'a expliqué, parce que le produit a changé. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup plus de lettres. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de colis. Le colis, c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir assez rapidement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On le commande, on veut l'avoir vite et le facteur c'est quelque chose qui le touche beaucoup. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir le spectacle de Vincent Pagé qui s'appelle Fidèle au poste, où en fait il retrace par son expérience personnelle, vu qu'il est facteur, les évolutions de la poste et donc à Bpost qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qu'il explique, c'est que lui à l'époque il était titulaire de sa tournée, aujourd'hui il l'est toujours, mais on est moins titulaire de sa tournée qu'à l'époque, et il avait 250 maisons et il connaissait les personnes qui habitaient dans les 250 foyers. Aujourd'hui il a 1200 maisons et il me disait, si je connais 3 ou 4 personnes sur ma tournée, c'est déjà beaucoup. Donc je pense que le service a totalement changé. Il me disait aussi que effectivement à l'époque les facteurs c'était vraiment des personnes qui rendaient service, donc c'était quelque chose de très important au sein de la poste, c'était de rendre service. Donc il y avait le fait que à l'époque c'est lui qui apportait les retraites, donc il avait en cash les retraites qu'il donnait aux personnes, et c'est toutes des choses qui ont changé. À l'époque il allait parfois à la pharmacie chercher les médicaments, à la boulangerie chercher le pain. Aujourd'hui, je pense que pour un postier, il a 20 secondes pour livrer le colis ou les lettres ou quoi que ce soit et puis partir. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment eu un gros changement au niveau de la manière dont la poste, qui maintenant est devenue Bpost, fonctionne, même qui est ressenti au niveau des facteurs. Et moi, ce qu'il me disait, c'est que ce qui a le plus changé, c'est justement ce facteur social.
Finalement, est-ce que ces changements ont entraîné une baisse de qualité dans les services de Bpost ?
Je ne sais pas si on peut dire que ça se fait au détriment du citoyen ou du client, parce que le client et le consommateur a aussi changé d'habitude. En 2022, et c'est un fait inédit, les Belges ont reçu en moyenne moins de 100 lettres par personne. Donc ça prouve bien que les moyens de communication, les moyens de consommation ont changé. Après, c'est sûr qu'il y a une série de services, et là, c'est sûrement les plus vulnérables ou les plus fragiles qui peuvent être touchés en premier, et moins importants. Léo vient bien d'expliquer les contraintes finalement de rentabilité, de productivité aujourd'hui qui pèsent sur les facteurs. Et il faut rester attentif parce que le contrat de gestion qui lie l'État à Bpost prévoit que le facteur reste une personne référence et une personne de contact justement pour les personnes plus fragilisées, plus âgées ou plus précarisées.
Et justement, je pense que pour rajouter, c'est ce que Vincent Pagé disait aussi, les personnes qui vont être le plus touchées par ces changements, c'est les personnes âgées. Parce que comme Julien l'expliquait, aujourd'hui le consommateur a changé. Donc il n'y a plus du tout le même rapport entre le facteur et le consommateur qu'à l'époque. Et les personnes âgées sont celles qui ont connu le facteur de l'époque et qui ont encore été habituées à ça. Faut savoir que le facteur, comme je l'ai dit, passait tous les jours. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a beaucoup moins de contacts. Et il y a un nouveau service qui a été mis en France, par exemple, où on peut payer un facteur pour aller voir si ses parents, par exemple, ou ses grands-parents vont bien. Et lui, il me disait, à l'époque, c'est le facteur qui faisait ça. Il ne fallait pas le payer. C'était un service qui était compris, en fait, dans les services de la Poste.
Et est-ce que toutes ces opérations de diversification ont été payantes pour Bpost ?
Je pense que les observateurs sont assez unanimes sur la nécessité pour Bpost de diversifier ses activités et de chercher de nouveaux marchés. Aujourd'hui, on voit que l'entreprise est toujours rentable, même si ces dernières années, les bénéfices sont un petit peu reculés. Ça reste une entreprise rentable qui dégage des bénéfices, qui reverse des dividendes à ses actionnaires, dont l'État. Après, est-ce que tout a été bien réalisé? Ça, c'est un peu une grande question à laquelle il n'y a pas de réponse définitive. Il y a des opérations qui sont en tout cas controversées. Je pense notamment au rachat d'une filiale américaine Radial aux États-Unis qui est spécialisée dans le colis et le e-commerce. Mais les syndicalistes, par exemple, se questionnent sur la nécessité d'investir dans le pays d'Amazon, dans un concurrent d'Amazon. Et on a rapidement vu, après l'achat, que l'entreprise n'était pas si rentable que ça. Et donc, ça a un peu plombé les bénéfices de Bpost et ça a surtout conduit à un crash boursier parce que quand on s'est rendu compte finalement que l'entreprise n'était pas rentable ou pas aussi rentable qu'on l'aurait espéré, l'action a vraiment dégringolé à la bourse de Bruxelles. Les critiques sont à peu près similaires pour l'entreprise Staci. Donc Staci, c'est une entreprise française qui est spécialisée de nouveau dans la logistique et dans la préparation de colis. Et Bpost a annoncé il y a quelques semaines son intention de racheter cette entreprise pour 1,3 milliard d'euros. Donc c'est une somme vraiment colossale. Ça vaut deux fois aujourd'hui la valeur boursière de Bpost. Donc c'est vraiment un investissement très important. Est-ce que ces investissements sont nécessaires? C'est un petit peu tôt pour avoir une réponse définitive parce que tout le monde s'accorde de nouveau sur la nécessité pour Bpost pour assurer son futur d'investir, de trouver de nouveaux marchés, de diversifier ses activités. Est-ce qu'il faut aller aux États-Unis? Est-ce qu'il faut aller acheter une entreprise en France pour assurer l'avenir finalement des postiers, des facteurs belges et de l'activité en Belgique? Ben là, c'est un débat qui n'a pas encore connu de réponse et où il y a vraiment des avis divergents entre direction de Bpost et les syndicats notamment.
Ces dernières années, on a surtout parlé de Bpost pour la valse de ses dirigeants et aux affaires liées à leur départ. Quels sont les gros dossiers qui font trembler l'entreprise?
Actuellement, l'autorité belge de la concurrence est en train de mener une enquête suite sur le dossier de la concession presse. Donc la concession presse, finalement, c'est une aide, un subside que donne l'État à un partenaire pour la distribution des journaux dans les zones reculées souvent ou dans les zones où les éditeurs ne trouvent pas de distributeurs pour distribuer justement leurs produits. Et en fait, il y a un soupçon de collusion pour le dernier marché public qui avait été ouvert. Et Bpost, au même titre que l'opérateur et le distributeur privé PPP et des éditeurs du nord du pays, sont soupçonnés finalement d'avoir trouvé un arrangement qui entachait finalement les règles de bonne concurrence pour se partager le gâteau et pour que tout le monde y trouve son compte. Donc ça, c'est un premier dossier. Suite à ces soupçons, la direction de Bpost a décidé de mener des audits internes de son propre chef dans une série de dossiers où Bpost opère et établit une série de services pour le compte de l'État. Et les audits ont démontré une série de pratiques inacceptables, où il y avait une surcompensation finalement de Bpost pour ses services, à tel point que l'entreprise a provisionné 85 millions d'euros dans ses comptes pour éventuellement dédommager et rembourser la surcompensation prévue. Il faut savoir que ces dossiers ne sont pas clos. L'autorité de la Belge de la concurrence est toujours en train d'enquêter dans le dossier de la concession presse et les soupçons de collusion. Quant aux autres dossiers où Bpost a déjà provisionné ces 85 millions d'euros, ces dossiers sont à l'analyse dans les autres SPF, donc les services publics fédéraux concernés, qui doivent remettre leur analyse pour voir s'ils trouvent un accord ou pas.
On l'a dit, la transformation de Bpost est le reflet de celle qui s'opère dans la société. L'écologie est donc aussi devenue un enjeu majeur pour l'entreprise. Concrètement, qu'a-t-elle mis en place pour réduire son empreinte carbone?
Il faut savoir que Bpost entend la durabilité sur plein d'aspects. Il y a la bonne gouvernance, il y a les emplois durables et il y a évidemment l'écologie. Sur le volet écologique, je pense que les deux aspects les plus impactants et les plus visibles pour le consommateur, c'est l'électrification du parc. Donc on commence à voir les camionnettes totalement électriques. Il y a aussi des livraisons qui sont effectuées en vélo et qui sont sans émission. Et puis l'autre projet majeur sur lequel Bpost communique beaucoup ces derniers mois, ces dernières années, c'est les écozones. Donc c'est des zones où finalement la distribution des colis et du courrier est assurée sans émission. Donc elle est faite soit avec des véhicules électriques, soit à vélo, soit à pied. Il faut savoir que dans ces écozones, Bpost aussi travaille avec des points relais, des distributeurs automatiques de colis. Et il développe vraiment une infrastructure pour essayer que le citoyen, le client, lorsqu'il va récupérer son courrier et son colis, il adopte aussi un comportement le plus durable possible.
Quelles sont les prochaines étapes prévues dans la transformation de Bpost? Sait-on déjà à quoi ressemblera son avenir?
Bpost a un nouveau CEO depuis presque 6 mois, c'est Chris Peters, l'ancien patron d'Elia, qui est arrivé à la tête dans l'entreprise. Alors lui, il veut développer la stratégie autour de différents axes. Alors il veut miser sur la qualité, il veut que Bpost soit encore plus fiable et offre un meilleur service encore qu'aujourd'hui. Il veut aussi développer et moderniser certains produit, par exemple recommandé, il trouve que aujourd'hui le produit n'est plus adapté à la société moderne. Il veut aussi investir dans la digitalisation et l'innovation. Ensuite, Bpost, et on l'a vu avec la future acquisition de Staci, veut continuer à travailler sur le e-commerce, sur le colis, sur la logistique. Et donc, finalement, l'activité va se regrouper en trois grands pôles. Il y a d'un côté, finalement, les services qu'on retrouve dans le dernier kilomètre, avec des bureaux de poste qui vont être modernisés, redynamisés en offrant toute une série de services. En tout cas, c'est l'ambition affichée par Chris Peters. Il y a toujours la livraison de la presse et du courrier et des colis qui va se perpétuer. Il y a un deuxième pôle qui est finalement la logistique, la préparation de commandes, avec un accent mis sur le service B2B, donc le commerce et le service d'entreprise entre entreprises, un segment qui est peu couvert aujourd'hui par Bpost. Et puis il y a tous les flux mondiaux et les envois internationaux, puisque aujourd'hui il faut savoir que Bpost, près de la moitié de son chiffre d'affaires, de son produit d'exploitation, est réalisé hors des frontières belges. Et avec la future acquisition de Staci, ce sera même encore plus élevé dans le monde de demain. Donc c'est quelque chose qui reste important et qui reste même essentiel pour Bpost.
Merci Julien, merci Léo.
Merci Julien.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.